Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous partager en écho avec tout ce qu'on vient d'entendre, tout ce qu'on vient de voir aussi sur ce beau ministère de l'escale, quelques pensées qui me sont venues pour essayer de faire le lien avec la parole de Dieu. C'est vrai que quand on parle de valeurs, puis tu as parlé pas mal de valeurs, de solidarité, d'éthique, est-ce que le recyclage c'est une valeur? Mais je crois qu'on peut regarder, peut-être que oui. Moi, ça me casse un peu les pieds parce que tous mes jours de congé, je les passe à la déchetterie actuellement. Visiblement, je ne suis pas le seul. Qu'on parle aussi de bénévolat, de service, on peut se demander, peut-être se poser la question, quel lien ça a avec ma vie de foi, quel lien ça a avec la parole de Dieu. Et puis, si on pense à nos voisins français, vous connaissez leur devise, hein, c'est liberté, égalité, fraternité. En période d'élection, ça revient assez souvent, c'est les valeurs de la République. Puis quand on pense à la France, la République, elle n'est pas tellement chrétienne. Hein. C'est plutôt une fierté pour eux de se dire qu'ils sont une République laïque. Alors que faut-il penser de ces valeurs? Est-ce qu'elles ont quelque chose à voir avec la foi chrétienne? Ou finalement, est-ce qu'on se met au diapason de ce qui se passe dans notre environnement? Je provoque un tout petit peu, peut-être pas autant que Raymond, mais je provoque quand même un tout petit peu avec cette question. Est-ce qu'on a quelque chose de spécifique à ce niveau-là? C'est une question que l'on doit se poser, d'après moi, à intervalles réguliers. Et puis, pour se la poser, il n'y a rien de mieux que d'essayer d'aller chercher dans la parole qu'est-ce qui pourrait nous aiguiller sur telle ou telle réponse. Alors, vous vous doutez bien de la réponse, si on fait venir l'escale à la frate, c'est qu'on est assez convaincu de la réponse. Mais je vous invite à écouter ce texte, c'est un texte d'apôtre Paul. Et puis, on se rend compte que Paul, il est pas seulement dans des hautes sphères spirituelles, il est aussi très souvent, ce que Reto nous a rappelé ce matin, dans des réalités toutes concrètes, toutes pratiques des vies et de la vie communautaire. Et puis ce texte, il en fait partie, c'est un texte qui est tiré de la deuxième épître aux Corinthiens. Ce n'est pas forcément celle qui a la plus grosse popularité. On se concentre souvent sur la première épître aux Corinthiens, on y fait souvent référence. La deuxième épître, c'est un peu l'oublier. C'est peut-être l'oublier parce qu'elle est justement très pratique et très concrète. Elle parle de choses, de la vie de tous les jours. Et puis, c'est ce qu'on va méditer ce matin. C'est dans 2 Corinthiens 8, je vous invite à suivre. Pour une fois, je n'ai pas fait de PowerPoint, vous pouvez suivre sur vos téléphones et autres Bibles. Dans 2 Corinthiens 8, on va méditer premièrement les 4 premiers versets de ce chapitre 8 de Corinthiens. Nous vous faisons connaître, frères et sœurs, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités et de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'assistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. Ministère de solidarité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà souvent entendu du haut de la chair. C'est un ministère de solidarité au même titre qu'un ministère prophétique, qu'un ministère d'évangéliste, qu'un ministère de pasteur. Toutes ces énumérations qu'on a plus l'habitude d'entendre, Paul, là, il parle clairement d'un ministère de solidarité. Dans d'autres traductions, c'est de pouvoir prendre part à l'assistance, ou bien nous ont réclamé la grâce de participer à ce service au profit des saints. Le terme en grec, c'est ce terme magnifique pour moi de koinonia. C'est le terme qui signifie une communauté particulièrement vivante, particulièrement dynamique. C'est cette participation à la vie d'un corps qu'est l'Église, qu'est la communauté chrétienne. C'est ce terme que Paul emploie quand il parle de ministère de solidarité. C'est prendre part, par notre service, à ce corps vivant. Pour Paul, la solidarité, ce n'est pas une option ou une valeur qui viendrait se rajouter par la suite. Pour Paul, la solidarité, elle est constitutive du fait de prendre part à un corps. On ne peut pas prendre part à un corps puis se dire « je vais seulement me servir ». Pour Paul, la solidarité fait partie intégrante du fait qu'on soit dedans ou dehors. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une valeur qu'on rajoute éthique, c'est quelque chose qui est constitutif de cette communauté. Et puis si on regarde même la définition de le Grand Robert, on a aussi cette notion-là que la solidarité, avant tout, c'est une relation entre personnes. Donc ça distingue un peu par rapport à ce qu'on peut peut-être entendre dans la vie quotidienne où on parle beaucoup d'éthique, de charte éthique qui viendrait se rajouter par après. Pour Paul, quand on fait partie de ce corps, de cette communauté, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute par après, c'est quelque chose qui se vit fondamentalement et premièrement, parce que tout simplement, on fait partie de la même équipe et puis de la même famille. C'est pour ça qu'on peut parler de famille, c'est pour ça qu'on peut parler de communauté et de corps. Parce que ce n'est pas une option, savoir si on le fait ou si on ne le fait pas. C'est là, tout simplement. Et puis, les cercles dans lesquels ça peut se vivre, je pense que j'en ai distingué trois. Ça se vit d'abord au sein de la communauté la plus proche, qui est l'église locale, en l'occurrence ici la Frate, mais beaucoup d'autres églises locales répandues de par le monde. C'est les églises au sens plus large, et puis là on peut parler de la Frée, on peut parler de l'Escale, on peut parler des œuvres missionnaires qui sont là, qui nous sont proches, toutes les œuvres à qui aussi vous envoyez le matériel et vous faites bénéficier de cette solidarité. Et puis finalement, dans la foi chrétienne, on a encore ce troisième cercle qui est tout simplement le prochain. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin, c'est le prochain, celui qui est proche de nous. Puis on se rend compte qu'avec l'avènement des technologies, ce proche de nous, il s'est vachement rapproché de nous. Il s'est vraiment rapproché de nous de manière très forte avec la technologie. J'aime beaucoup ce verset de 1 Thessaloniciens 3, verset 12, qui dit que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, le premier et le deuxième cercle, et pour tous, à l'image de notre amour pour vous. On voit très bien que ce petit « et pour tous » nous ouvre pleinement sur ce cercle du prochain. Ce n'est pas seulement rester concentré sur nous, sur les personnes que nous connaissons, mais c'est s'ouvrir avec cette relation de solidarité à l'ensemble de nos prochains. Et puis ce ministère de solidarité, en grec, c'est le terme de service. Puis là, on retrouve cette notion de bénévolat où on donne de son temps, de ses compétences, de son énergie par service pour ce corps. Alors, je ne vais pas mettre très longtemps là-dessus, mais c'est intéressant de voir que ministère et puis service, en grec, c'est synonyme. Donc, cet élan, finalement, de ce qu'on a sur le cœur, cet élan de nos compétences, on le donne pour que ce corps puisse vivre. Et ainsi, on refuse l'exclusion, on refuse que les choses restent comme elles sont finalement. On essaye de les rendre dynamiques. Et puis si on va un tout petit peu plus loin dans toujours ce texte de Corinthiens, au chapitre 8, si on essaye de voir comment ça peut se passer, ça fait aussi des échos intéressants à ce que Reto nous a partagé. Si je prends les versets 13 à 15, je lis... Car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance suppléera à ce qui leur manque, pour que leur abondance ainsi supplée à ce qui vous manque, de sorte qu'il y aura égalité. Ainsi qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Et là, Paul fait allusion à l'expérience des Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert puis qu'ils recevaient la manne. Je ne sais pas si c'est un épisode qui fait écho à vous, mais tout de suite, mais assez rapidement en tout cas, les Israélites, en recevant la manne, il y en a plusieurs qui se sont dit « on va jouer aux Suisses, on va faire des réserves ». On va faire des réserves de manne comme ça pour les jours suivants. On va regarder ce qui se passe. Et puis, si jamais il ne devait pas avoir de la manne, nous, on en aurait en réserve. Vous savez quelle était la réponse de Dieu? C'est que cette manne, elle ne se conservait pas plus que 24 heures. Il fallait toujours attendre et compter sur la grâce de Dieu. Et puis, c'est très intéressant parce que nous, très pratique comme texte de la manne, ils se sont très vite aussi rendus compte que certains arrivaient à récolter trois fois plus de manne que les autres, suivant leur capacité, suivant leur manière, leur technique de faire. Et puis ceux qui savaient récolter plus vite que d'autres, étaient finalement obligés de redistribuer la manne à ceux qui étaient plus lents. Ainsi, on peut vraiment lire ce verset, Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop parce qu'il était obligé de se débarrasser de ce qu'il avait. Et celui qui avait peu ne manquait de rien. Belle théorie économique, hein? Qui peut nous interpeller puis qui va vraiment dans le sens de ce que vit l'escale. Donc on voit que c'est pas seulement des valeurs qu'on ajoute éthiques ou des valeurs qui viendraient de je sais pas quelle philosophie, c'est des valeurs qu'on retrouve peut-être pas directement exposées dans un grand précis de théorie économique ou de solidarité comme Paul aurait été capable de faire. Non, il prend plutôt des exemples de la vie quotidienne et de voir comment cette solidarité, ce ministère de solidarité se met en œuvre. Et le dernier point que j'aimerais souligner, c'est cette notion de persévérance. Parce que Paul, s'il le écrit à ses Corinthiens, c'est qu'il doit redoubler de force et d'argumentation pour les encourager à poursuivre leur effort. Parce que visiblement, ils sont un poil essoufflés, puisque cette collecte qu'ils doivent envoyer à Jérusalem, ils se demandent si ça vaut vraiment la peine de la faire ou bien pas. Donc ils doivent redoubler d'efforts. Et puis là, c'est un peu ce qu'on voit avec l'escale, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle existe. C'est un effort qui est là pour la durée. Ce n'est pas une action coup de poing, c'est un effort qui est là pour la durée. Et Paul vit pleinement cette notion de la persévérance, que quand on se lance dans ce ministère de la solidarité, ce n'est pas un ministère coup de poing, c'est un ministère marathon. Et puis, moi je suis heureux d'avoir pu vivre ce culte ce matin et puis donner cette place particulière à ce ministère aussi pour que vous soyez encouragés, toutes celles et ceux qui sont partie prenante de ce corps de l'escale, pour continuer ce ministère type marathon plutôt que 100 mètres. Vous avez besoin de nos encouragements, besoin de nos prières et puis besoin aussi peut-être que certaines personnes puissent prendre part active à ce corps, soit en devenant membre, soit en priant régulièrement, soit avec les différentes possibilités de s'engager. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que nous pouvons poser des actes tout à fait concrets pour faire ta volonté, Seigneur. Ce n'est pas des valeurs qui viendraient de je ne sais pas où, c'est des valeurs qui sont expérimentées dès les tout débuts de ton Église, de faire partie de ce corps et d'y prendre une part active. Seigneur, merci parce que tu nous y encourages par ta parole, merci parce que tu nous donnes des exemples, comme on l'a vu ce matin, extrêmement concrets, de ce que nous pouvons faire et vivre ensemble pour, une goutte à la fois, faire progresser ton royaume dans ce monde. Seigneur, que tu donnes la force, l'énergie, particulièrement à Reto, à Raymond, à toutes les personnes qui sont engagées, toutes les bénévoles qui sont engagées de notre Église. Seigneur, que tu les bénisses abondamment, que tu renouvelles leur énergie, leur vision et leur travail pour toi. Ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Et j'inviterai le groupe mission à venir me rejoindre pour pouvoir distribuer et vivre ensemble ce repas de la Seine. Je ne sais pas si vous savez, mais le deuxième nom qui est donné à ce repas de la Seine, c'est le repas de la communion. Et ce terme communion, on le retrouve dans ce texte bien connu de Actes 2, versets 42 à 47, où on retrouve cette idée de koinonia, c'est-à-dire de faire corps autour de certains éléments. En l'occurrence, vous allez les voir. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion, donc koinonia fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple et d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, ce qui nous unit ce matin. Et cette manière de vivre la communion fraternelle, ça passait par le partage du pain, c'est-à-dire le repas que nous allons partager maintenant. Ce n'est pas un geste anodin, parce qu'en participant à ce repas, on vit de manière particulière aussi cette relation horizontale entre nous, qu'on fait partie de ce même corps, fait partie de ce même corps de manière vivante. C'est aussi une manière de se dire que ce corps, ce n'est pas nous qui en sommes à l'origine. Mais c'est Jésus qui en est à l'origine par ce qu'il a fait à la croix pour nous. C'est lui l'origine de ce corps. Et j'aime bien rappeler que lorsqu'on est là le dimanche matin, ce n'est pas parce qu'on a premièrement décidé de venir, mais c'est premièrement parce qu'on a été appelé par Dieu pour lui rendre un culte et former cette famille que nous formons ce matin. Alors qu'on puisse vraiment le prendre dans cet esprit de communion fraternelle, de cette koinonia, où on est tous ensemble pour vivre ensemble ce moment particulier. J'invite à la prière. Notre Père, tu nous vois rassemblés ce matin devant toi pour partager ce repas que toi-même tu as institué, ce repas qui fait vivre cette union entre nous, cette solidarité entre nous. Seigneur, tu veux bénir ces moments, nous remplir de ta présence de manière particulière et nous permettre de te remercier pour tout ce que tu fais pour nous dans nos vies au quotidien par ta douce présence à nos côtés. Amen.